Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Il vous est certainement arrivé de vous pâmer devant un merveilleux petit pianiste de 8 ans ou une formidable petite violoniste de 7 ans qui joue comme des dieux. Alors écoutez l'histoire de Céline Raphaël. C'est la face B de ce qu'on appelle les enfants prodiges. Son père a voulu faire d'elle un petit singe savant du piano, une bête à concours. Et en échange, il a pourri son enfance. J'ai tiré cette histoire du livre de Céline Raphaël, La démesure soumise à la violence d'un père, aux éditions Max Milo. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Au début, ça ressemble à une belle histoire. Un soir de l'hiver 1986, dans leur grande maison de l'Ardèche, papa fait un cadeau à sa petite fille de 2 ans et demi, Céline. Elle s'en souvient, c'était nu, mais elle s'en souvient. Elle est dans les bras de sa mère, devant un feu de cheminée. On sonne à la porte, 2 livreurs entrent et ils posent un drôle d'objet au milieu du salon. Et papa qui lui dit « Tu vois Céline, ce piano, il est pour toi. » 2 ans et demi. Céline ne réalise pas tout de suite que ce meuble, avec ses touches blanches et noires qui font des sons quand on appuie dessus, va bouleverser sa vie. Ça aurait pu être en bien. Ce fut un carnage. Le lendemain, le père trouve une professeure de piano, Madame Lévy. Et Céline, avec sa petite bouille, minuscule sur sa banquette face au grand piano, prend sa première leçon. Pour qu'elle s'y retrouve entre les touches noires et les touches blanches, Madame Lévy a collé des gommettes sur le clavier. Voilà, très bien. Tu mets ta main comme ça, non, comme ça, voilà. Et ton coude plus bas, hein. Plus bas ton coude, voilà, comme ça, voilà. Et puis très vite, à chaque fois qu'elle travaille, le père vient s'asseoir sur un tabouret à côté. Tous les jours, pendant les 30 minutes que dure la répétition. Et il est là, il ne dit rien, il écoute. Et puis Céline a 3 ans, et les 30 minutes deviennent 1 heure. Et à 4 ans, Céline travaille 3 heures par jour, 4 ans. Et il est là, toujours sur son tabouret, il s'est collé une idée en tête, il va faire de sa fille un prodige du piano. Elle se souvient que c'était une corvée, qu'elle n'aimait pas ça. Mais qu'elle était avec son papa, qui lui accordait de l'attention. C'est pour ça qu'elle faisait son piano, tous les jours, gentiment, sans rechigner, pour exister dans ses yeux et ses oreilles. Et ça, pour une petite fille de 4 ans, c'est très précieux. À 5 ans, toute la famille déménage en Allemagne. Le père est ingénieur, il est muté là-bas. Et là, changement de professeur de piano. La nouvelle Madame Tonin est ce qu'on appelle une vieille bique, maigre comme un clou, revêche. Et la première fois qu'elle entend Céline jouer un morceau, elle se tourne vers le père et elle lui dit « Votre fille, monsieur, a un don !» Et ça, autant vous dire que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça le conforte, d'autant qu'à force de l'écouter travailler, il a affiné son oreille, le papa, et il a de plus en plus son idée sur ce qu'il faut qu'elle fasse. Il devient exigeant et il devient sévère. Un dimanche matin, il lui fait répéter une étude de Pozzoli. Ça fait 3 heures qu'elle est dessus. Elle en a marre, elle n'arrive plus à se concentrer. « Je te préviens, Céline. Je prends une feuille et je note. Si tu fais plus de 3 fautes sans t'arrêter pour te corriger, tu auras 3 coups de ceinture. » Voilà. Elle ne peut même pas regarder sa partition. Elle ne voit que son père dans le reflet du piano, avec son carnet et son crayon, à noter les fautes qu'elle n'a même pas vues. Et à la fin, il se lève de son tabouret, il retire sa ceinture. Allez! « Baisse ton pantalon et penche-toi en avant. Les mains sur le bureau. » Et il lui colle 3 coups de ceinture. Bim, 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 5 ans.
La première fois que c'est arrivé, donc effectivement j'avais 4 ans, il m'a demandé de m'approcher du bureau, de me pencher en avant. Et j'ai reçu mes premiers coups de ceinture et à ce moment-là, c'est comme une fissure, c'est-à-dire que j'ai cru que j'avais perdu l'amour de mon père parce que je ne le méritais pas. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal en fait.
Et après, sans un mot, les yeux embués de larmes, Céline remonte son pantalon et elle se remet au piano. Ça n'était que 3 coups de ceinture, mais ces 3 coups-là venaient de bouleverser ma vie. Quand Céline a 6 ans, finit l'Allemagne, retour en France. La famille s'installe en Auvergne. Et donc, nouveau professeur de piano. Monsieur Bertrand, la cinquantaine, carrure imposante, une voix de stator. Chez lui, on ne parle que de musique. Son fils est musicien, sa femme est musicienne, ce sont des amoureux de la musique. Et Céline ne comprend pas aimer la musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour elle, c'est une corvée, aimer la musique. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle fait du piano. Le matin, avant d'aller à l'école, piano. Quand l'école est finie, elle rentre à la maison, piano. Le midi, elle mange sur le pouce, piano. Piano, piano, piano. Tout le temps, dès qu'elle a un temps libre. Le père rentre tous les soirs à 7h. Il ouvre la porte et il va s'asseoir sur le tabouret à compter les fausses notes. Et après le dîner, il s'y recolle jusqu'à minuit. Elle a 6 ans. Et quand ça ne va pas, coup de ceinture. Et un jour, Monsieur Bertrand a la brillante idée d'inscrire Céline à un concours, le jour de ses 8 ans. Et à partir de ce moment-là, le père ne pense plus qu'à ça, le concours. Alors maintenant, il assiste au cours chez Monsieur Bertrand. Il s'assoit au fond de la pièce et il compte les fautes. Et une fois, il est tellement furieux qu'en sortant, il traîne Céline chez le coiffeur. « Vous pouvez lui raser la tête, s'il vous plaît ?» À 6 ans, Céline vit ça comme une humiliation. Et la mère alors? Qu'est-ce qu'elle dit la mère de tout ça? Eh bien, on ne lui demande pas son avis. Elle s'est laissée convaincre que sa fille avait un don, que tous ses sacrifices c'était pour son bien, qu'elle les remercierait plus tard. Et arrive donc le jour du concours. Et ce jour-là, il est merveilleux.
T'inquiète pas, Céline, ça va aller. Essaye de bien te concentrer et de faire totalement abstraction de la salle, d'accord?
Céline, Raphaël, c'est à vous, mademoiselle.
Céline s'installe au piano dans sa petite robe rouge à fleurs.
Bonjour, comment t'appelles-tu?
Céline. Quel âge as-tu, Céline?
8 ans, aujourd'hui. Tu es sûre que tu ne t'es pas trompée de catégorie?
Et elle se met à jouer. Et quand elle a fini, c'est l'ovation. Toute la salle se lève pour l'applaudir. Et elle termine première du concours. Son père est fier et ça le conforte. À l'école, Céline est en cours moyen 2, avec un an d'avance. C'est une bonne élève. Mais quand la cloche sonne à 4 heures, elle n'a aucune envie de rentrer chez elle. Elle essaye d'envoyer des signaux au maître. Elle met un temps fou à ranger ses affaires. Elle est la dernière à sortir de la classe. Mais personne ne peut s'imaginer qu'elle n'a pas envie de rentrer chez elle. C'est une fille de notable. Son père est directeur d'usine. Les bourgeois, on les envie. On ne les plaint pas.
Les gens ont du mal à s'imaginer que ça peut toucher tous les milieux sociaux, y compris les plus favorisés. Donc c'est pour ça aussi que les gens n'ont pas repéré ma souffrance, c'est que pour eux, ça ne pouvait pas exister dans mon milieu social.
Et Céline fait sa rentrée en 6e, elle a 10 ans. Et vous savez combien elle fait de piano par jour à 10 ans? 7 heures. Et c'est pas le moment de flancher. Monsieur Bertrand veut qu'elle participe à un concours international en août prochain, en Allemagne. Et donc le père devient à nouveau infernal. Et maintenant, quand Céline ne joue pas assez bien, pour la punir, il lui interdit d'aller aux toilettes.
T'as qu'à chier par terre !
Ou il la prive de dîner, en pleine croissance. Et quand il est vraiment excédé, il l'envoie à la cave. Nous voilà 2 semaines avant le concours. Céline répète la toccata de Poulenc. Et le père n'est pas content. Alors au dîner, sa mère lui a mis un peu de salade dans un ramequin, une part d'omelette un peu tiédasse, du pain, de l'eau et un yaourt. Le père se met à tout mélanger, le yaourt avec la salade et avec l'omelette. Il en fait une bouillie.
C'est ce que tu joues, hein ? De la bouillie. Alors tu vas manger de la bouillie. Et tu sortiras de table quand tu auras tout fini, pas avant. Compris ?
Entre 2 sanglots, Céline dit alors à son père.
Même le chien est mieux traité que moi. T'es pire que le chien.
Et puis, plus le concours approche, plus il devient papa gâteau, comme la dernière fois. Gentil, doux, méconnaissable.
Mademoiselle Raphaël Céline.
Céline s'installe à son piano et elle joue son programme. Chopin, Beethoven, Poulenc, un sans-faute. Et elle finit 3e. 3e d'un concours international de jeunes prodiges. Et notez que celui qui gagne ce concours-là, c'est un jeune Chinois qui deviendra plus tard une star planétaire. Il s'appelle Lang Lang. Et le père est heureux, bien sûr. Mais vous commencez à le connaître, n'est-ce pas ? La 3e place ne l'a pas détendu. Il veut plus, il veut mieux. Et elle, elle a peur. Elle a de plus en plus peur de lui. Et Céline est maintenant en 3e. Et à la fin de l'année, c'est le brevet. Et l'année prochaine, c'est le lycée. Et là, quelque chose commence à l'angoisser. Un truc qu'elle voit venir gros comme une maison. Pour qu'elle se consacre à 100% au piano, son père va la priver de lycée. C'est sûr, il va l'inscrire à des cours par correspondance. Il va la priver du seul moment, du seul endroit où elle peut penser à autre chose qu'au piano. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se lance dans une sorte de grève de la faim. Elle ne mange presque plus rien. Je voulais croire que mon père, en me voyant dépérir, ferait un lien entre ma maigreur et ma tristesse, entre ma tristesse et son comportement. Je n'en pouvais plus. Je voulais mourir. En quelques mois, elle perd 10 kilos. Le matin, la balance affiche maintenant moins de 40 kilos. Et ses professeurs au collège commencent à s'inquiéter.
« Il faut manger, mademoiselle Raphaël. Vous allez bientôt disparaître. »
Sa mère aussi s'inquiète. Mais son père, il ne voit pas que sa fille est à bout. Il ne tique pas sur sa pâleur, sur ses traits fatigués. Il continue de s'acharner sur elle pour la préparer au concours, à coups de ceinture et même parfois à coups de poing. Un samedi de mai, avant de l'emmener à son cours de piano chez Monsieur Bertrand, il plante son regard dans le sien.
« On va chez ton prof, mais je te préviens, quand on revient, tu vas voir ce qui t'attend. »
Et Céline en parle à sa mère, qui appelle Monsieur Bertrand.
« Monsieur Bertrand, si vous pouviez éviter de lui faire trop de remarques aujourd'hui, je pense que c'est plus prudent, vu l'humeur de son père. »
Et à la fin du cours, Monsieur Bertrand dit au père.
« Écoutez, je ne vais plus pouvoir donner de cours à Céline. Je suis fatigué ces derniers temps. Je pense que je vais arrêter le piano. »
Qu'importe, les Raphaël sont sur le point de déménager dans les Yvelines, en région parisienne. Et donc, nouveau prof de piano, Monsieur Demarski. Et en parallèle, entrée au lycée, en seconde, en 1997. Céline a 14 ans. Et elle a donc échappé au cours par correspondance. Mais elle est toujours aussi famélique, 35 kilos. Le premier jour au lycée, la professeure principale demande à ses élèves de remplir la fameuse fiche. Nom, prénom, adresse, profession des parents, etc. Et elle ajoute
« Au dos de la fiche, vous pouvez me signaler un problème que vous rencontrez ou indiquer quelque chose de particulier. D'accord ?»
Un problème particulier ? Céline écrit « Je fais plus de 45 heures de piano par semaine en plus de mes heures de cours. » Le lendemain, Madame Marion, l'infirmière scolaire, veut lui parler.
« Il paraît que tu fais 45 heures de piano par semaine. C'est vrai ?»
Céline dit oui d'un léger mouvement de la tête. Pas plus.
« Je te trouve très maigre, Céline. Tout se passe bien dans ta vie ?»
Elle pensait venir me parler en me disant « Voilà, tu sais, Céline, il va y avoir le bac de français. Faudrait que tu fasses un peu moins de piano. » Elle pensait me demander de faire un sacrifice, de faire un peu moins de musique. Et je lui ai dit « Mais je déteste le piano. » Et elle a eu cette présence d'esprit de garder en tête cette phrase avec mon apparence physique. Et elle s'est dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. »
Cette femme, Céline, la trouve bienveillante, chaleureuse. Maternelle. Elle se sent en confiance, alors elle lui parle, et elle retourne la voir, et bientôt tous les midis, et elle lui raconte tout. Pour la première fois de ma vie, je savais que si je n'étais pas au lycée le lundi matin, quelqu'un s'apercevrait de mon absence et appellerait les secours. Et l'infirmière lui fait alors rencontrer le médecin scolaire.
La situation est critique, Céline. Ce que tu vis n'est absolument pas normal.
Il faut faire un signalement. Il faut au moins que tu fasses constater tes blessures. On ne sait pas ce qui peut t'arriver. Faire un signalement ? Céline n'est absolument pas prête à ça. Mais quelques jours plus tard, son père lui colle une trempe. Elle est obligée d'aller à l'hôpital pour faire soigner son genou. Et à l'hôpital, les médecins envisagent, comme visiblement elle est anorexique, qu'elle se soit auto-infligée sa blessure. Ça la révolte. Et puis le week-end de Pâques, son père lui colle une correction monumentale. Elle s'en mêle les pinceaux dans un morceau, il lui claque la tête sur le clavier. Et le lundi, elle raconte tout à l'infirmière.
« Madame Marion, je suis prête pour le signalement. Je ne peux plus être chez moi. »
Pour la première fois, j'étais plus toute seule et on était deux. Et ça m'a donné un peu un sentiment d'invincibilité, quoi. Si elle n'avait pas été là, je suis sûre qu'aujourd'hui, je serais morte. Soit je me serais suicidée parce que j'en pouvais vraiment plus de cette situation et je commençais à y penser de plus en plus. Soit j'aurais pris un mauvais coup, une mauvaise chute. Et l'infirmière scolaire, Madame Marion, m'a sauvé la vie, en fait.
Et sa mère est convoquée. Et elle craque.
Je suis incapable de protéger ma fille.
Deux jours plus tard, une procédure de signalement est lancée. Dans son livre, Céline écrit « J'avais l'impression d'avoir trahi mon père et d'être responsable de la destruction de la famille. » Mais c'est trop tard. C'est parti. Et le lendemain, Céline et sa mère sont convoquées à la brigade des mineurs. Céline culpabilise, alors elle minimise, elle raconte du bout des lèvres. Sa mère est interrogée dans la pièce d'à côté. J'avais peur que les policiers soient durs avec elle. Certes, elle n'avait pas divorcé, elle n'était pas partie en nous emmenant avec elle sous son bras. Mais elle m'avait soutenue en cachette pendant toutes ces années. Sans elle, je serais morte depuis longtemps. Si elle n'était pas partie, c'est qu'elle n'avait pas pu, par manque de confiance en elle. Après cette audition, Céline, à cause de son anorexie, alarmante, est placée à l'hôpital, en pédiatrie, sous X, pour que son père ne puisse pas la retrouver. Et il est placé en garde à vue. Et il nie.
Oui, c'est vrai, Céline fait beaucoup de piano, d'accord, mais c'est parce qu'elle est très douée. Et puis, je ne l'ai jamais frappée. Si c'est arrivé, c'est à de très rares occasions.
Une confrontation est organisée entre Céline et son père. Un lieutenant lui explique comment ça va se passer.
Céline, on va faire venir ton père. Il va s'asseoir sur la chaise qui est là, derrière toi. Tu ne seras pas obligé de le regarder. Et je vais me mettre entre vous deux. Il ne pourra pas te toucher, d'accord ? Après, je vais relire ta déclaration.
et je vais demander à ton père de s'expliquer sur les faits que tu dénonces. Voilà. T'as bien compris.
Et quelques minutes plus tard, Céline voit entrer son père, escorté par un policier, menotté, sans cravate, sans lacet à ses chaussures, livide. Et le lieutenant lit les déclarations de Céline.
Alors, monsieur Raphaël, vous croyez que votre fille ment sur tout ça? Vous la voyez, votre fille? Regardez comme elle est mal. Vous pensez qu'elle serait dans cet état si rien ne s'était jamais passé? Je maintiens mes déclarations. Il m'est arrivé de donner quelques petites tapes à Céline. Elle est en pleine période d'adolescence. Elle a tendance à me répondre. Je fais toujours attention à ne pas lui faire mal. Le problème, c'est qu'elle marque vite.
À la fin de la confrontation, le lieutenant dit au père.
Vous n'avez rien à dire à votre fille? Non.
Céline sort de l'hôpital 3 mois plus tard. Et elle est placée en famille d'accueil à Paris. Et puis dans un foyer. Et elle fait sa rentrée en première S. Et arrive le procès en novembre 98 devant le tribunal correctionnel de Versailles. Le père, très amaigri, s'assoit sur le banc des prévenus. L'audience est ouverte. Céline écrit. Je ne voulais pas que mon père aille en prison. Je ne voulais pas être responsable de sa déchéance. Je ne voulais pas imposer cela à ma mère. J'avais peur qu'elle ne me le pardonne pas. Et pourtant, la procureure réclame de la prison.
Monsieur, vous êtes un minable. Et je requiers contre vous la peine de 2 ans de prison ferme, assortie d'une obligation de soins de 5 ans, ainsi qu'un retrait de l'autorité parentale.
Les juges seront un peu plus cléments. Le père est reconnu coupable de violence habituelle sur mineurs de moins de 15 ans et de violence aggravée. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve et 3 ans d'injonction de soins. Céline écrit « Plus personne ne pourra nier ce que j'avais enduré, même pas mon père. » Voilà pour ce récit inspiré de votre livre Paris. Il y a donc 4 ans aux éditions Max Milo, Céline Raphaël. Je voudrais qu'on termine l'histoire, puisque évidemment elle ne s'est pas arrêtée là. Après la condamnation de votre père, il est entendu que vous ne pouvez plus vivre dans votre famille. D'ailleurs, le juge ne le voudrait pas.
Non, absolument. Je suis restée en famille d'accueil, puis ensuite j'ai été placée en maison d'enfants, service d'accueil d'urgence, et puis ensuite en foyer. Sachant que comme il n'y avait pas de place dans les foyers normaux, j'ai été placée dans un foyer de semi-délinquance. Donc
vous n'étiez pas du tout à votre place. Mais vous vous êtes amusée, d'après ce que j'ai compris.
Je me suis amusée, plutôt détendue, c'est-à-dire que j'ai commencé à vivre un peu pour moi. Ouais. Mais c'était quand même pas facile parce que je me levais à 5h le matin pour aller prendre le train, le premier train à Choisy-le-Roi à 5h30 pour être au lycée à 8h. Donc ça a néanmoins pas été une partie de plaisir.
Votre père aurait voulu à ce moment-là que vous rentriez à la maison.
Bien sûr.
Ce qui prouve qu'il était encore dans le déni.
Ah bah, il a toujours été dans le déni, il l'est encore aujourd'hui. Il ne s'était rien passé. Pour lui, c'était l'infirmière scolaire qui m'avait mis tout ça dans la tête. C'était comme un complot.
Oui. En terminale, néanmoins, vous retournez passer quelques week-ends chez vos parents. Et là, il se met à focaliser sur les mathématiques.
Exactement. Il y a eu des droits de visite et d'hébergement tous les week-ends. Et quand j'arrivais le vendredi soir, il me demandait mon cahier de maths et il notait le nombre d'exercices qu'il fallait que je fasse pendant le week-end.
Ouais. Il avait fait un transfert sur les mathématiques. Ce qui semble indiquer que peut-être le sujet n'était pas le piano, en vérité.
Complètement. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est malade. Et qui ne vit que à travers des obsessions, les unes après les autres. Il fait tout dans l'extrême, en fait. Il n'y a pas de juste mesure.
D'où ce titre de votre livre qui s'appelle La démesure. Vous êtes devenu médecin.
Oui.
C'était votre objectif. Celui-là, c'est vous qui l'avez choisi.
Ah, ça a toujours été mon rêve depuis toute petite. Hein. Depuis que je sais parler, j'ai toujours dit que je voulais faire médecin.
Votre mère ne l'a jamais quitté.
Non.
Elle est toujours avec lui aujourd'hui.
Oui.
D'après vous, elle écoute, là, maintenant?
Non.
Pour le savoir, il faudrait que vous l'ayez appelée. Vous
Exactement.
Avez gardé des relations avec
elle? Bien sûr, je l'appelle quasiment tous les jours. Je vois ma mère comme une victime de violence également. Vous savez, les femmes battues peuvent être victimes de violences physiques et de violences psychologiques. Et ma mère a été toujours sous l'emprise de cet homme qu'elle a toujours idéalisé et qui lui a fait comprendre au fur et à mesure du temps qu'elle ne valait rien et qu'elle ne pourrait pas nous éduquer.
Votre père, vous diriez que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique ?
Non, pas du tout, parce qu'il n'est absolument pas imbu de sa personne, il n'a pas besoin de se mettre en avant, non, je pense que c'est quelqu'un
qui... Il aime rester sur le tabouret.
Oui, et puis, ses costumes sont, enfin, quand il trouve quelque chose dans la rue, il le ramène. S'il peut ne pas payer un bouquin parce qu'il l'a trouvé par terre. Enfin, c'est pas quelqu'un qui se met en avant et qui aime se mettre en avant. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a déjà été battu par son père quand il était petit.
Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas raconté, mais qui ressort au procès, bien entendu, ouais. Qui est évoqué par son avocat.
Et je pense que pour survivre à son propre père, il a dû se blinder, ou oublier tous les sentiments, et survivre en avançant tout droit, c'est marche ou crève, et il a reproduit quand je suis née ce qu'il avait vécu petit, mais pour moi ça relève de la maladie.
Vous êtes là pour débriefer cette histoire, et il faut qu'on parle donc de ce piano qui aurait pu être votre meilleur ami et qui est devenu votre pire ennemi. Dans la seconde où vous avez dénoncé votre père, vous arrêtez.
Ah bah oui, et pendant un moment.
Pendant combien de temps?
J'ai arrêté quasiment peut-être 10 ans.
Oui, au moins jusqu'à la fin de vos études de médecine, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr, ouais.
C'est tout sur la médecine et plus rien sur le piano.
Exactement.
Vous lui en voulez à ce moment-là, au piano? Parce que, au fond, vous êtes une adolescente encore. Est-ce qu'il vous est arrivé de lui donner des coups de pied?
Ah oui, bon, si j'avais pu le détruire avec un marteau, je l'aurais fait. Il m'est arrivé de casser des cordes en lui tapant dessus.
Ouais.
C'est vrai qu'à cette époque-là, je pensais que c'était lui le responsable.
Oui. Et depuis?
Depuis, j'ai compris que c'était pas lui le responsable. Et
vous avez fait la paix avec lui?
On peut pas vraiment dire que j'ai fait la paix avec lui, parce que jouer n'est toujours pas un plaisir gratuit. C'est-à-dire que je joue pour faire plaisir aux autres, à ceux qui m'écoutent. Et en retour, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Mais m'installer au piano, jouer pour moi, me faire plaisir pour moi, pour l'instant... C'est pas vraiment le cas.
Et il n'arrive jamais que vous rentriez de l'hôpital, et puis que voilà, comme on en rêverait tous, pour se détendre, vous asseyez au piano et pour faire le vide, ploup.
Non, moi je fais le vide en chantant.
Je peux dire quelque chose quand même qui vous est arrivé tout à l'heure, la toccata de Poulenc passée, hein, dans mon récit, et sur votre bras droit, avec votre main gauche, vous jouiez du piano. Les doigtés sont restés ancrés dans votre cerveau.
C'est-à-dire que j'ai l'oreille absolue, donc à chaque fois que j'entends du piano, avec mes mains, je joue en même temps.
Ouais. Mais les doigtés sont restés, les positions,
ah oui,
des doigts.
Ah bah oui.
Quand vous vous êtes recollé, vous avez rejoué. Pas au même niveau, parce que malgré tout, c'est du travail. Mais...
Je pense au même niveau aussi, parce que encore une fois, c'est juste musculaire. Après, il faut se refaire les muscles, mais en tout cas, artistiquement, j'avais mûri.
Votre père a focalisé sur le piano. Pourquoi le piano? Parce que, si j'ai bien compris, il devient un expert en piano au fur et à mesure qu'il vous voit progresser en assistant à vos cours. Il n'y connaît rien, lui.
En fait, quand il était petit, il aurait voulu faire du piano, mais mes grands-parents n'avaient pas du tout les moyens. Mon grand-père était mineur de fond, et donc il avait fait de l'accordéon.
Oui.
Et je pense que finalement, il m'a mis au piano pour réaliser un peu le rêve qu'il n'avait pas pu assouvir quand il était petit.
Mais au fond, il aurait pu focaliser sur autre chose.
Ah, complètement. Bah, quand je suis partie, après, ça a été les maths.
Ouais. Il arrive, par exemple, à des jeunes sportifs de vivre exactement le même sort que vous. Genre, il y a eu des histoires de petits tennismen que les parents ont poussés jusqu'à les faire craquer physiquement.
Je pense que c'est dans tous les milieux, dans tous les sports, à la fois pour des raisons de performance, mais aussi pour d'autres raisons. Enfin, je veux dire, la maltraitance, c'est quelque chose qui n'est pas réservé à une certaine catégorie de la population.
Alors, est-ce que vous étiez doué, comme l'a dit la vieille Bic, la première fois qu'elle vous a entendu?
Probablement, mais il n'y a pas que ça. Enfin, y avait aussi beaucoup de travail.
Oui. C'est parce que vous travailliez que vous jouiez merveilleusement bien.
Ah bah ça, c'est sûr que ça y contribue. Après, savoir si j'ai un don ou pas, c'est un peu compliqué. Mais peut-être que j'avais des prédispositions, disons.
Les profs de musique, ils n'ont rien vu?
Pas du tout. Ils étaient très aveuglés. Monsieur Bertrand m'a dit plus tard, tu sais, au conservatoire, en semaine, j'avais des 2 chevaux et le week-end, j'avais une Formule 1. Et je pense qu'il s'est un peu laissé griser par ça, en se disant que voilà, peut-être qu'avec moi, il allait pouvoir me faire faire des tas de concours, me faire devenir une grande pianiste. Et je pense que voilà, tous ces profs successifs ont été un peu grisés par ce talent et qui se sont mis des œillères, en fait, sans regarder ce qu'il y avait derrière.
Parce que vous avez eu une conversation avec Monsieur Bertrand, qui est le professeur... important de votre courte carrière de musicienne, puisqu'au fond, c'est lui qui vous amène vers les concours. C'est lui qui vous a inscrit.
Oui. Oh, j'ai discuté avec lui bien après et il culpabilisait énormément de s'être rendu compte de rien.
Il n'a rien vu.
Ah, rien du tout. Par contre, le dernier prof, Monsieur Demarski, lui a vu une fois au niveau de mes épaules des hématomes. Et par contre, lui avait vraiment envie de devenir quelqu'un à travers moi. Et donc, on n'a rien sans rien. Voilà. Et donc, il a accepté cet état de fait sans rien dire. Il s'en foutait un petit peu, en fait.
Alors, pour illustrer mon récit tout à l'heure, nous sommes allés nous balader sur YouTube pour trouver, essayer de retrouver le doigté d'un enfant à l'oreille, hein, pour ne rien trahir de votre histoire. Et on est tombé sur des enfants prodiges du piano. Alors, notamment, il y avait une petite chinoise là de 10 ans qui jouait merveilleusement cette toccata de Poulenc, qui est quand même un enfer à jouer, qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Et du coup, je me suis dit, je peux plus les admirer maintenant que j'ai raconté l'histoire de Céline. Internet est rempli d'histoires d'enfants prodiges.
Bien sûr. Et simplement, les gens se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière. Moi, je me pose toujours la question quand je vois la nouvelle émission de France 2, La Prodige. Je me demande, quand je regarde cette émission, toujours ce qu'il y a derrière.
Et vous supposez que derrière, il y a toujours... Parce qu'on peut pas être un enfant prodige sans faire de piano un minimum de, disons, 5 heures par jour. 7, c'est beaucoup.
On n'a rien sans rien. Il faut absolument travailler. Il n'y a pas de secret. Enfin, Lang Lang, quand il est arrivé premier au concours Eitlingen, il faisait 12 heures de piano par jour. Il n'allait pas à l'école. Il était enfermé dans cette pièce au conservatoire de Pékin. On n'a quand même rien sans rien. Après, il y a des enfants qui ont une passion pour l'instrument. Tous les enfants prodiges ne sont pas des enfants maltraités. Mais il faut faire attention. Dans ces enfants-là, une partie peut l'être, et il faut ouvrir un petit peu les yeux pour pouvoir les repérer à temps.
Donc méfiance quand vous voyez l'émission prodige.
Exactement.
Ouais, qui a lieu une fois par an sur France 2, qui est produit d'ailleurs par la maison de production pour laquelle je travaille. Mais ils ne savent pas, c'est-à-dire on ne va jamais gratter. On a vécu, alors peut-être pour vous c'est pas la meilleure, on a vécu dans le mythe par exemple d'un chef d'orchestre qui s'appelait Roberto Benzi. Et on disait Roberto Benzi a 8 ans. C'était un enfant prodige, il donnait des concerts merveilleux, mais jamais personne n'est allé gratter pour savoir s'il avait été heureux ou malheureux.
Mais Mozart était battu par son père et était très malheureux.
Au fond, derrière tous les enfants qui réussissent trop tôt, il y a peut-être à gratter quand même.
Mais je pense qu'il faut être très méfiant. Encore une fois, ça peut être une passion. Il y a plein d'enfants qui font de la danse pour qui c'est une passion, mais il faut se méfier.
Céline, vous avez manqué d'entrer au Conservatoire de musique de Paris qui rassemble l'élite des musiciens français.
Oui, tout à fait. C'était une grosse angoisse pour moi que d'être acceptée au CNSM parce que je me disais qu'après l'école, c'était fini, quoi, que j'allais prendre des cours par le CNED et c'était pour moi une angoisse majeure.
Avec un premier prix à l'horizon qui était programmé et qui aurait fait de vous, qui vous aurait fait entrer dans le cercle très, 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 très petit des grands pianistes français. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter?
Alors jamais.
Le piano, jamais.
Jamais, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui dans mon métier de médecin et de chercheur. Je regrette absolument pas de ne pas avoir fait de piano.
Et est-ce que vous avez pu, alors vous nous avez expliqué tout à l'heure que pendant au moins 10 ans vous n'avez pas pu toucher un clavier et que vous y êtes revenu, c'est quand même sacrément intéressant pour les autres, comme si au fond vous n'étiez capable que de jouer du piano pour les autres et pas pour vous. Mais est-ce que vous pouvez en écouter?
Oui, sans aucun souci. Là, de ce côté-là, je veux dire, c'est... encore une fois, c'est pas l'instrument responsable de mon enfance. Hein. Je veux dire, c'était mon père, donc je peux tout à fait écouter du piano et même avoir beaucoup de plaisir à écouter certains morceaux. Hein.
Il y a une phrase qui m'a bien intéressé dans la bouche de votre mère au moment où on cherche à comprendre pourquoi votre mère ne réagit pas, ne vous protège pas plus et au fond ne vous prend pas, vous le dites vous-même dans votre livre, sous son bras avec vos frères et sœurs. Je n'ai pas raconté tout, mais il y a une famille là derrière, il n'y a pas que vous. Et d'ailleurs, votre père a jamais focalisé sur les frères et sœurs?
J'ai une sœur et non, pas du tout. Bah, il avait plus trop de temps, hein. Il s'occupait beaucoup de moi.
Et votre mère dit cette phrase qui est un peu la phrase argument de beaucoup de parents, alors notamment qui mettent leurs enfants à la musique un peu de force, c'est « tu nous remercieras plus tard ». C'est une phrase extrêmement piégeuse, je trouve.
Oui, et je pense que quand elle l'a prononcée, elle mesurait pas encore l'étendue de la violence subie et des répercussions physiques et morales.
Vous avez des enfants, vous?
Non.
Je vous ai pas posé la question. Vous ne pouvez pas en avoir? Vous ne voulez pas en avoir? Ça vous ferait souffrir d'en avoir?
C'est-à-dire que je pense que... D'une part, mon métier est extrêmement prenant et c'est vrai que avoir un enfant dans tout ça, ce serait compliqué. Et d'autre part, j'aurais effectivement très peur de mal faire.
Ouais. Ça vous habite.
J'ai peur, oui, parce que on a toujours tendance à vouloir faire l'inverse de ce qu'on a vécu. Donc, mais faire l'inverse, c'est pas forcément la bonne solution non plus. Donc, j'aurais peur de mal faire et de toute façon, vraiment avec le travail prenant que j'ai en ce moment, c'est pas du tout d'actualité.
Alors, votre histoire, et ça, c'est une histoire dans l'histoire, est aussi une formidable publicité pour les infirmières scolaires, parce que sans cette Madame Marion. Hein, tout ça, ce sont des noms d'emprunt, y compris le vôtre n'est pas votre nom, et vous n'avez pas voulu, au fond, poser votre histoire complète sur la table, et on vous comprend. Mais cette infirmière scolaire vous a sauvé la vie.
Complètement.
Dans un système où, vous le savez, il y a de moins en moins d'infirmières scolaires.
C'est terrible. C'est terrible. Ça, moi qui suis maintenant au Conseil national de la protection de l'enfance, ça me fait énormément de peine de voir que la médecine scolaire et le service de santé en faveur de la promotion des élèves est sinistré parce que comment sont repérés les enfants à l'école s'il n'y a plus d'infirmières scolaires? C'est terrible. Et moi, je lui dois d'être là aujourd'hui.
Elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Ou elle est, comme dans beaucoup de collèges, elle a 4 collèges. Et donc pas le temps, au fond, de parler avec vous tous les midis. Qu'est-ce qui vous arrive?
Ah ben alors, à 100%, je suis sûre à 100% que je serais morte si elle n'avait pas été là.
Suicide.
Suicide ou mauvais coup?
Ou mauvais coup de sa part?
Oui, de la part de mon père, oui.
Ça aurait pu aller jusque-là.
À cette époque-là, j'étais vraiment épuisée. Et sur le plan physique, hein, parce que je faisais moins de 35 kilos, et sur le plan moral. Et lui devenait quand même de plus en plus violent et incontrôlé. Donc oui, ça aurait pu mal finir. Ça aurait pu mal finir de sa part. Et moi, je pense que peut-être j'aurais mis fin à mes jours parce que j'en pouvais vraiment plus de cette situation. Et j'aurais pas eu d'horizon si elle avait pas été là, parce que j'aurais été embrigadée dans une carrière de pianiste que je ne souhaitais pas.
Donc au fond, vous avez eu la chance qu'il y ait une infirmière scolaire dans votre lycée.
J'ai eu l'immense chance de la croiser, oui.
Parce qu'on est d'accord, hein, il n'y en a pas dans tous les lycées aujourd'hui.
Il n'y en a pas dans tous les lycées et il y en a de moins en moins.
Ouais. Donc c'est. Alors je vous avais créé une association aujourd'hui pour. Vous êtes vice-présidente, je crois, d'une association qui s'appelle comment?
Qui s'appelle Avenir d'Enfants.
Avenir d'Enfants. On vous trouve sur Internet, je dis ça parce
Pas encore.
Pas encore.
Pas encore. En fait, c'est une jeune fille qui m'a contactée quand elle avait 12 ans à l'époque.
Ouais.
Elle avait lu mon livre et elle voulait. Parler de la maltraitance dans son collège et on a continué d'être en contact. Elle organise régulièrement des conférences pour parler de la maltraitance et donc elle a monté avec moi cette association dont le but est d'aider les enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance à avoir une scolarité qui se rapproche le plus possible de celle qu'ils souhaitent.
Et à ne pas faire une scolarité par défaut.
Mais oui, 30% des enfants qui sortent de l'ASE ont un diplôme.
Aide sociale à l'enfance.
Ouais. C'est terrible. Il y a moins de 10% des enfants qui sont placés qui vont dans le secondaire, vous vous rendez compte?
Mais vous savez pourquoi? Parce que l'aide sociale à l'enfance cesse de financer, cesse
Mais
de les
terrible.
Héberger à 18
Bien
ans.
Sûr. On les oriente vers des formations professionnelles en leur disant ton contrat jeune majeur, si tu as la chance d'en avoir un, finit à 21 ans, donc il faut que tu aies trouvé un boulot d'ici là. C'est terrible, on brise des rêves.
On brise des rêves. Est-ce qu'à l'occasion de la sortie de votre livre et de la promotion qui a suivi, parce qu'il y a 4 ans, les gens ont peut-être oublié, mais on vous a pas mal vu à la télévision. Vous êtes allé notamment chez Thierry Ardisson, vous me disiez tout à l'heure, qui d'ailleurs avait eu une oreille attentive. Voilà.
Un
caillou dans le jardin de Thierry Ardisson. Est-ce que vous avez reçu des messages, des coups de fil, des mails de gens qui vous disent, mais c'est mon histoire que vous racontez?
Beaucoup.
Des musiciens?
Aussi.
Mais
oui.
Pas que.
Mais pas que. Beaucoup. Et surtout des gens plutôt de 50, 60 ans. Des jeunes, bien sûr, mais aussi des gens de 50, 60 ans, chez qui, en fait, pour qui, à cette époque-là, ça se faisait pas de parler. Qui ont gardé le silence et qui ont eu des vies vraiment détruites parce qu'ils avaient vécu.
Et vous arrivez à les aider d'une manière ou d'une autre ou en parler suffit?
Parce que je pense que oui, enfin peut-être en parler suffit, mais enfin en tout cas je me sens pas cette capacité de les aider. Je me sens pas d'avoir les bons mots. J'essaye comme je peux, mais je suis pas sûre que je sois très douée.
J'ai tiré cette histoire du livre de Céline Raphaël, La démesure soumise à la violence d'un père, aux éditions Max Milo.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.